présentation de Sylvain Yangman. Bonjour Sylvain.
Bonjour Florence Meke. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au JDM de ce dimanche 9 février 2025 sur la CRTV, les titres. 59e fête de la jeunesse, plus que deux jours et ce sera la fête au Cameroun. Dernière séance de répétition du défilé ce jour, la relation jeunes et religion et les députés et sénateurs jeunes réunis au Parlement jeunesse depuis ce matin à Yaoundé au menu du JDM. À l'étranger, les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est demandent un cessez-le-feu immédiat à l'est de la République démocratique du Congo en proie à un conflit armé M23 qui a déjà fait plusieurs morts. En sport, championnat MTN Elite One de football, la 11e journée s'achève ce jour avec 7 rencontres à travers le pays. Le leader Colombe du Jai Lobo joue contre AS Fortuna. Madame, Monsieur, bienvenue au JDM. Assemblée nationale, 180 députés et 100 sénateurs jeunes sont réunis depuis cette fin de matinée à l'hémicycle du Palais des Verts, Paul Biya. C'est dans le cadre de la 8e édition du Parlement jeunesse, une institution qui s'est réunie en congrès pour la 2e fois. Les travaux sont présidés par le premier vice-président de la Chambre, l'honorable Hilarion Itom. Cette rencontre qui regroupe les jeunes issus des 58 départements et des 10 régions que compte notre pays a pour but de permettre aux jeunes de se familiariser avec non seulement le débat politique, mais aussi de renforcer leur engagement en faveur des valeurs patriotiques de paix et du vivre ensemble harmonieux. Le Parlement jeunesse a également pour but de permettre de lutter contre les fléaux tels que la consommation des drogues et autres alcools. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La place des fêtes de Nkovos à Ibolova, dans la région du Sud, a abrité cette matinée la dernière séance des répétitions du défilé des établissements scolaires retenus pour la parade du 11 février. Voici le reportage de Francine Koufani de CRTV Sud.
Poitrine bombée, pas cadencée au rythme des chants patriotiques, élèves et étudiants de la ville de Bolova ont battu le macadam à la place des fêtes de Nkovos, encadrée par la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique. Il est question de peaufiner les derniers réglages avant la grande parade du 11 février prochain.
Madame Metou Marianik épouse Ea, un défilé, c'est un agencement des mouvements. Il ne doit pas avoir des écarts. Les jeunes doivent respecter les rangs et nous aussi, au niveau de la coordination, nous devons respecter le timing.
Pour s'assurer du bon déroulement des activités, la présence des autorités administratives. À la fin de la parade, la première adjointe préfectorale de l'Envila exprime sa satisfaction. Yasmine Ekani.
Ebolova est femme prête pour accueillir la parade du défilé que présidera le gouverneur de la région du Sud.
Des répétitions similaires ont également eu lieu dans les arrondissements d'Ebolova 1 et 2. Dans le Sud, tout est mis en place pour assurer mardi prochain, en 11 février, mémorable. Ebolova, Francine Koufani.
À quelques jours de la célébration de la fête de la jeunesse, parlons de la relation entre les jeunes et la religion. Dans un contexte d'ouverture sur le monde, nombreux d'entre eux disent compter sur la foi pour impacter leur entourage positivement afin de bâtir une société exemplaire. De nos jours, les jeunes croient-ils véritablement en Dieu et pourquoi? Landrine Dianga leur a posé la question. Voici son reportage.
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Certains jeunes ont décidé de s'accrocher à ces versets bibliques pour bâtir une relation personnelle avec le Seigneur.
Pour nourrir ma foi, je prie, je lis la parole de Dieu, je la médite. J'écoute aussi des enseignements.
Le dimanche, sur le jour du Seigneur, je dois me rendre à l'église.
Ma foi est basée sur le vécu. Toute ma vie n'est qu'une suite de témoignages.
Au regard des situations vécues par chacun et des fléaux qui menacent cette frange de la population, compter sur Dieu en toutes circonstances est leur dernier rempart.
En 2014, des gens se sont levés et ne cachaient pas leur envie de m'abattre. Dieu m'a sauvé. Sans lui, je ne serais même pas du tout en vie.
Je passais par des moments compliqués. Après le deuil de mon papa, j'étais tombée enceinte. Donc je voyais que ma vie était terminée. Je me voyais comme un échec. À partir de là, j'ai commencé à soupirer. Après Dieu, en Dieu, j'ai trouvé ce réconfort.
Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, les enseignements reçus chaque jour leur permettent d'améliorer leur comportement à l'effet d'être la lumière du monde pour mieux développer la société.
Dans la région du Sud-Ouest, les jeunes ont choisi pour voie d'appropriation des valeurs la religion. Incursion dans un ménage grâce à Stéphane Tala des Certivis Sud-Ouest.
Confier la journée à Dieu. Chez Baba Bajo Colette, la prière est incontournable chaque matin au réveil.
Quand on prie, on lit les passages bibliques. Ils demandent toujours, tu as dit Jésus. Jésus, c'est qui? On leur explique la différence entre Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. On leur montre comment faire le signe de croix.
Les rôles sont répartis afin d'assurer une meilleure assimilation.
Le matin, par exemple, nous prions ensemble. Et le soir, avant d'aller se coucher, les enfants les plus petits, ils ont leur prière, comme prier à l'ange gardien.
Ange gardien, à qui Dieu m'a confié.
À 4 ans seulement, la petite Bokadeli fait la fierté de sa grand-mère. Mais il faut passer à l'étape supérieure, adapter l'encadrement au vécu quotidien de l'enfant.
On dit non. Regarder sur le cahier de l'autre, c'est tricher. Et Dieu n'aime pas les tricheurs. On leur inculque cette morale-là. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas.
Pour cette dame, transmettre les valeurs religieuses aux jeunes, c'est fixer les bases solides d'une société d'hommes et de femmes intègres et prêts à relever les défis d'un monde de plus en plus pervers. Boyard Stéphane Talassi, RTV.
Vous écoutez la CRTV, vous écoutez le JDM. Il est 13h passé de 6 minutes dans ce studio. Nous sommes justement dimanche et c'est jour de célébration. Parlons de célébration des saints patrons ce dimanche à la paroisse Notre-Dame de la paix du lac Yaoundé. L'homélie appelle les fidèles à être des bâtisseurs de la paix au Cameroun. Le compte rendu de Julien Gambi.
La paroisse Notre-Dame de la paix du lac n'a jamais aussi bien porté son nom qu'en ce dimanche, fête patronale de ses saints patrons, les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus et Marie. Devant des milliers de fidèles et de nombreux prêtres, le père curé a invité le peuple de Dieu face aux violences de toutes sortes à être des bâtisseurs de paix. Et comme un clin d'œil fait aux jeunes en cette veille de la fête de la jeunesse, le père Yves Ateba Onambélé leur a demandé de tourner le dos aux drogues, aux violences et de ne pas se décourager face au chômage. Nous comptons sur vous à marteler le missionnaire. Fondé en 1901, les missionnaires des Sacré-Cœur de Jésus et Marie, présents au Cameroun, œuvrent dans un apostolat centré sur l'évangile, à l'endroit des pauvres et sur une formation de qualité des personnes marginalisées.
La paroisse EPC de Djungolo à Yaoundé est en fête. C'est à la faveur de la célébration de la 20e édition de la fête paroissiale. Les fidèles sont invités à être des ambassadeurs de la réconciliation dans leur milieu de vie respectif. Le culte de clôture, couplé à la cérémonie d'offrande spéciale, suit son cours. Promotion des TIC, le programme 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes pour l'émergence à l'horizon 2035 avance dans la région de l'Est. 258 personnes formées récemment au centre IAI Cameroun d'Abomban ont reçu hier à Bagofi de leurs attestations. C'était en présence du ministre Joseph Lé et du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Reportage, Roger Samaki Poro de CRTV Est.
Jour de fête dans la cité de Bagofit, les 258 apprenants reçoivent leurs attestations au terme d'une formation de 6 semaines au centre IAI d'Abomban.
Nous avons appris le traitement en Excel et en Word.
Je voudrais ouvrir une comptabilité générale bureautique. Grand merci le président Paul Biya et sa femme.
Le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda, invite les récipiendaires à jouer leur partition dans la vulgarisation de l'utilisation de l'outil informatique. Le programme MIGEF 2035 compte déjà 40 000 bénéficiaires dans la région de l'Est. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, salue ces avancées.
On se dit que rapidement, on va atteindre l'objectif de 50 000 et aller au-delà. Ça permet à nos frères et sœurs, à nos parents, y compris les BACAM, que tout ce monde là, sache mettre en marche un ordinateur, sache ce que c'est que Internet.
Cette rencontre festive a connu la signature de 3 conventions entre l'IAI Cameroun, la chaire UNESCO et le lycée technique de Bagofit, l'ONG Fondation d'éducation d'espérance Baïflomic et l'association Arche Baka d'Ilili. Bagofit, Roger Sama Kiporo, CR TV.
Les militantes et militants de la section RDPC Nyon et Fumu Sud-Ouest se disent déterminés à assurer la victoire au président national de leur parti à la présidentielle d'octobre 2025. C'est ce qui sous-tend la tournée de mobilisation du président de la section et maire de la commune d'Endom, René Bokolo Essama, du 13 février au 1er mars 2025 sur l'ensemble de sa circonscription politique. Au-delà de nos frontières, un cessez-le-feu immédiat, c'est ce que demandent les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté d'Afrique. L'Afrique de l'Est réunie hier à Dar es Salaam, en Tanzanie, sur le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de cette province et de nombreuses personnes tuées à la suite des affrontements entre l'armée et les rebelles du M23. Les deux chefs d'État de la RDC, Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda, prenaient part aux travaux de ce sommet extraordinaire tenu à Dar es Salaam. Et puis en sport football, championnat professionnel MTN Elite One, la 11e journée s'achève aujourd'hui à Garoua. Gazelle Football Academy joue contre Coton Sport. Dynamo de Douala reçoit Panthère Sportif d'Indé. À Melon, Stade Renard affronte l'Union Sportive de Douala. Lyon Sport Academy de Bamenda joue contre Canon Sportif de Yaoundé. Victoria United contre Bambutos de Mbouda. Le leader Colombe du Jai Lobo joue contre AS Fortuna et PWD de Bamenda reçoit Fauve Azur. Hier à Melon, rappelons-le, les Astres de Douala ont battu l'Aigle Royal du Mungo 1-0. C'est la fin du JDM. Dimanche midi se poursuit sous la conduite de Florence. Que bon dimanche, excellente semaine à venir et bonne fête de la jeunesse in advance.
Le JDM était une présentation de Sylvain Yarman. Bon dimanche.
Mais, il ne passe seulement chez moi. Mais gars, il y a les deux où tu te lèves le sable, tu begins à wonder que rien dans ta life ne voit qu'un. Que, oh, même les pays frais qui ou quoi te cotaient le café, begin à te call waka. Tu begins à sciencer sur all les faux et que tu as plus d'eau. Tu wonder que tu veux un bindi way, mais gars. Y a pas les deux. Assez, c'est encore quel récompte au bras.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Pourquoi les gars y a pas comme ça? Midi.
Assez, la vie c'est même quoi, non? Moi et Wanda, mon frère, ça c'est même quoi? Les gants, le sang à l'œil, tu t'amuses, on te blesse. Pour une histoire de lasse, tu ne veux pas, tu laisses. Hey, assez, donc la vie, si c'est ça. Ha, je n'étais pas prête, mon frère, ça c'est même quoi. C'est le nem, c'est le nem, c'est le nem. C'est le nem, Pelika, c'est le nem. Hey, c'est le nem. C'est le nem, c'est le nem. Hey, c'est le nem. C'est le nem, pays seul, c'est le nem, hey, c'est le nem.
Vous écoutez Dimanche Midi sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV.
Quelques 150 diplômés de l'enseignement supérieur au Cameroun viennent d'être recrutés dans les 3 universités d'État récemment créées par le président de la République à Bertois, Ebolova et Garoua. La plupart d'entre eux étaient estampillés sans emploi avant l'acte salvateur du chef de l'État. La réalité, c'est que le taux de chômage des Camerounais âgés entre 25 et 35 ans, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, est de 14,8% contre 3% pour les non-scolarisés, soit 5 fois plus élevé que celui des non-scolarisés. Selon les données fournies par l'Institut national de la statistique, le Cameroun fait face à un défi criard en matière d'intégration de sa jeunesse dans le monde du travail. L'inadéquation entre les formations académiques et les réalités du marché est généralement pointée du doigt. Entre système des brouillardises et recherche des solutions alternatives durables, la question est au centre des pages jaunes de Dimanche Midi. Face aux difficultés d'accès à l'emploi formel, les petits métiers se révèlent en effet comme une alternative dynamique où l'ingéniosité et l'adaptabilité sont de mise. Zoom sur ces métiers porteurs du secteur informel. C'est dans ce reportage que signe Prisca Njeng Mungolo.
Le taux de chômage des jeunes diplômés au Cameroun est 5 fois plus élevé que celui des non-scolarisés. 14,8% des jeunes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur chôment contre 3% des non-scolarisés. Des chiffres révélés par l'Institut national de la statistique. Un manque de travail qui oriente les jeunes vers le secteur informel. Les marchés, les rues et les quartiers populaires de la ville de Yaoundé regorgent des vendeurs de fruits, d'accessoires, de vêtements ou encore de gadgets électroniques.
Mohamed Lamy, je vois les chaussures à lui. Je suis aussi les habits. Donc on prend ça, ça pue le groupe, on met notre pluie, on valide.
Dimitri, moi je fais dans la photo, c'est une branche de l'infographie. Je me bats à l'hôtel de ville. On essayait de faire la fonction publique, ça n'a pas donné, mais on essaie de se battre avec ce métier.
Avec l'évolution du digital, plusieurs jeunes ont trouvé leur voie dans le design graphique, la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux ou encore le développement web. C'est le cas de Destiny. L'étudiant en sciences politiques a pris ses quartiers à l'hôtel de ville de Yaoundé.
Je suis informaticien, plus précisément graphiste. On fait des montages, des visuels, des montages publicitaires, des plaques publicitaires. Parfois, c'est difficile d'entrer dans l'idée du client, mais on fait avec. Ça fait 5 ans que si je suis là, c'est parce que je gagne forcément quelque chose. Il faut aller que j'entre dans la vie active.
Non loin de l'hôtel de ville, Esaïe, la trentaine Sony, c'est spécialisé dans les restaurants ambulants.
Nous vendons un peu de tout, le petit déjeuner, et puis le repas de midi aussi, composé des tas de poulet DG, des sauces tomates comme d'habitude, et autre chose quand il y a commande. Les prix sont abordables. Le plus moyen des Camerounais peut consommer, c'est 1000 francs. J'ai voulu être dans l'armée, comme mon papa était dans l'armée. Alors, la fonction publique, c'est quelque chose.
Au marché Mokolo, secteur des motos, le transport et la livraison attirent de nombreux jeunes. Les mototaximens, communément appelés Benskin, améliorent leur service avec la montée de l'e-commerce.
Mais c'est de ma moto. Ça donne quand même un peu. Quand on trouve des as, c'est qu'on peut sauter le riz aux enfants à la maison, c'est déjà bon.
Au marché Acacia, les services cosmétiques et d'esthétique ont le vent en poupe. Pédicure, manicure, gommage, pose oncle, Martine, la vingtaine, y trouve son compte.
Je fais dans l'esthétique uniquement en anglais. Je pose les ongles aux femmes. Ça fait environ 3 ans aujourd'hui. C'est ce qui nourrit ma famille. Pour le moment, avec tout le désordre que nous avons ici au marché, nous sommes vraiment dans les difficultés. Nous faisons dans l'informel. C'est à travers ce petit job que nous nourrissons nos familles. Nous envoyons nos enfants à l'école. Avant, j'avais des rêves. J'aurais voulu être journaliste comme vous. Je n'ai pas eu le choix. J'ai perdu mes parents très tôt. J'ai pu me focaliser quelque part et chercher ce que je peux nourrir mes enfants avec les envois à l'école pour que ce soit des citoyens dans l'avenir meilleur.
Des milliers de jeunes travaillent dans l'artisanat, la cordonnerie, la couture ou la coiffure. Si ces métiers sont parfois perçus comme des voies de dernier recours, ils offrent néanmoins de réelles perspectives pour ceux qui savent innover et fidéliser leur clientèle. À Douala, Lionel Bilong est désormais propriétaire d'une entreprise de fabrication de chaussures made in Cameroun.
Le secteur cuir et textile et transformation en produits dérivés était un secteur clé pour le développement du Cameroun. C'est l'un des éléments qui a été un déclic pour choisir de lancer une marque de chaussures. J'avais une passion déjà pour la mode. Il n'y a pas d'école de formation en métier de chaussures au Cameroun. Ça reste notre principale difficulté. Ça fait qu'on va plus lentement. Nous sommes une jeune entreprise. Nous sommes très ambitieux. On aimerait avoir beaucoup d'impact, que ce soit sur les emplois, que ce soit sur les cotisations en termes d'impôts, que ce soit même sur la représentation en termes de made in Cameroun.
Le secteur informel au Cameroun est bien plus qu'un simple palliatif au chômage. Il est un moteur de résilience et de créativité pour la jeunesse. En dépit des défis, ces petits métiers constituent une véritable alternative économique, prouvant que l'innovation et l'adaptabilité restent les clés de la réussite dans un marché du travail en constante mutation.
Dimanche midi, la lutte contre le chômage des jeunes au Cameroun nécessite une approche globale et coordonnée qui implique le gouvernement, les organisations de la société civile et les entreprises à capitaux privés. La promotion de l'entrepreneuriat jeune permet aujourd'hui d'absorber cette main-d'œuvre en quête d'opportunités, d'emploi de perspectives et d'épanouissement professionnel. C'est dans cette optique que le Centre de formation professionnelle Victoria Sunshine Foundation encadre les jeunes à travers des programmes de formation professionnelle dans une quinzaine de métiers. Immersion dans ce centre d'insertion socio-professionnelle pour la promotion de l'auto-emploi des jeunes, c'est avec notre reporter Marie-Claire Messi-Ekobona.
Après 2 mois et demi de formation au centre professionnel Victoria Sunshine Foundation, l'héliciculture n'a plus de secret pour Gisèle Mélissa.
On apprend l'alimentation des escargots, l'entretien et comment faire ressortir les produits dérivés de l'escargot qui pourront nous aider dans notre commercialisation future.
Une filière peu connue du grand public et qui constitue une niche d'opportunité pour les apprenants.
C'est une filière qui n'est pas encore véritablement exploitée. Aussi, beaucoup de gens ont peur de se lancer parce que ça prend quand même du temps. Comment 1 an, il faut être patient. Je compte lancer un élevage chez moi. Donc, j'ai déjà aménagé l'espace dans lequel je vais poser mon escargotière.
Comme elle, Johanna suit la même formation dans le centre. À quelques semaines de l'obtention de son diplôme de fin de formation, la jeune dame se projette déjà dans le futur.
J'ai d'abord eu moi-même à utiliser la bave d'escargot sans vraiment savoir comment l'extraire véritablement. Donc je suis venue pour avoir la base pour l'extraction véritable et pouvoir fabriquer des produits à base de cette bave.
Parmi les activités menées dans ce centre de formation professionnelle, l'élevage des vers blancs n'est pas en reste. Depuis quelques années, l'activité connaît un essor au Cameroun en raison de ses nombreux avantages. Jacques Moussi, encadreur, explique.
Quand on se lance dans cette activité, l'incubation du bac, on a juste besoin des bassines avec tout le nécessaire. Pour, après avoir fait l'incubation le premier jour, après 30 jours, nous avons déjà des larves. Ça veut dire un bac incubé devrait nous donner 1,4 kg. Et au bout de 90 jours, on a la possibilité d'avoir nos propres géniteurs. Donc, sur l'espace d'un mètre carré, on a la possibilité d'incuber au mini 20 bacs. Et se faire un chiffre d'affaires après 90 jours qui va te produire 300 000 francs chaque fin du mois.
La Fondation offre des programmes de formation dans divers domaines d'activité qui aident les jeunes à acquérir des compétences nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi. Edwige Ze, promotrice du centre Victoria Sunshine Foundation.
Nous avons une quinzaine de métiers. Au bout de la formation, on vous donne des rudiments de l'entrepreneuriat pour vous permettre de gérer correctement votre activité génératrice de revenus. On fait dans l'élevage, comme l'élevage des escargots, l'élevage des hannetons, la cuniculture, donc les lapins, la pisciculture, le poisson, la culture des champignons, la restauration rapide, la culture des fraises, la valorisation des déchets, la mécanique mobile, les produits d'entretien, la blanchisserie, la décoration événementielle, le maquillage, l'informatique et l'élevage des poulets. Le plus grand nombre des formations dure 3 mois.
Grâce à un mécanisme de financement mis en place, les jeunes bénéficient des opportunités qui leur sont offertes avec en prime l'accompagnement des projets, comme le souligne la promotrice du centre, Edwige Ze.
Après la formation, nos candidats passent donc un certificat de qualification professionnelle. Et donc, ils sortent d'ici avec un diplôme et avec un métier. Nous leur donnons un kit de démarrage pour qu'ils puissent directement commencer leur activité. Si j'ai appris l'élevage des escargots, on me construit l'escargotière, on me donne les premiers producteurs. Cependant, nous savons que se former, ça coûte cher. Nous avons mis en place la mutuelle d'épargne pour mon autonomisation. Donc, on permet à nos futurs apprenants de mettre de côté 500 francs ou 1000 francs par jour. Et au bout de 9 mois, ils entrent en formation. Après 12 mois, ils sortent de chez nous avec un kit pour s'installer dans leur activité. Notre objectif est de pouvoir autonomiser un minimum de 100 personnes par an.
Des initiatives qui permettent à cette jeune Camerounaise de la diaspora d'apporter sa pierre à l'édifice dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en vue de réduire le taux de chômage au Cameroun.
La jeunesse camerounaise pèse d'un poids lourd dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Elle a pour pseudonyme « Fer de lance de la nation, avenir du Cameroun de demain ». Focus sur les états de service de l'État du Cameroun en faveur de la jeunesse, Laurentine Bekono.
Être jeune au Cameroun, c'est avoir entre 15 et 35 ans la tranche d'âge pour bénéficier de la carte jeune biométrique, laquelle ouvre la porte à ses détenteurs à un bon nombre de facilités et d'opportunités. La carte jeune biométrique est mise en œuvre par un ministère public entièrement dédié à la jeunesse. Créé par décret du président de la République en date du 28 novembre 2012, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en abrégé Minjec a pour mission principale l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation civique et de la promotion de l'intégration nationale. Avant l'avènement d'un ministère spécifique, la jeunesse a toujours fait l'objet d'attention particulière, même lorsqu'elle était accolée au sport ou à l'éducation. À sa tête, se sont succédés les ministres qui ont su donner une âme et une ambition à l'institution jeune. Au-delà de ce cadre organique, la jeunesse camerounaise bénéficie d'un cadre institutionnel de délibération des diligences qui lui sont intimement liées, à l'instar du Conseil national de la jeunesse. En dehors du Minjec, plusieurs autres départements ministériels ont pour mission de prendre en charge la jeunesse dans des domaines spécifiques tels que l'enseignement supérieurs, les enseignements secondaires, l'éducation de base, la formation professionnelle, les sports et l'éducation physique, etc. Chaque année, malgré la conjoncture difficile, la plupart de ces départements ministériels en charge de tout ou partie des problématiques de la jeunesse voient leur enveloppe budgétaire prendre du volume en fonction de la demande sociale. Aussi, le gouvernement de la République multiplie-t-il des projets et programmes logés dans différents administrations en faveur de la jeunesse. Logé au Minjec, Youth Connect Cameroun est un programme gouvernemental qui, depuis décembre 2019, s'emploie à l'autonomisation des jeunes Camerounais avec le concours du système des Nations Unies. Le plan triennal spécial jeune constitue un autre bouclier pour affronter les nombreux défis de l'heure. Il a été annoncé officiellement par le président de la République le 10 février 2016 à l'occasion du centenaire de la fête de la jeunesse. Le PTS jeune bénéficie d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA avec pour objectif d'appuyer 1,5 million de jeunes au Cameroun à raison de 500 000 jeunes par an. Le plan jeunesse se présente pour sa part comme une thérapie vigoureuse qui a pour objectif de faire de la jeunesse à moyen terme le moteur du développement national dans ses dimensions économiques, sociales et culturelles. Il ambitionne d'être un instrument de réarmement moral et un levier de mobilisation des jeunes sur les grands chantiers nationaux de l'heure, à savoir la relance de la croissance économique, la gouvernance et la lutte contre la corruption, l'amélioration du des vies des citoyens. On pourrait également citer, sans autre prétention à l'exhaustivité, le Fonds national de l'emploi, le programme des subventions aux associations de jeunes dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes, PDVIR, projet placé sous la tutelle du ministère de l'Habitat et du Développement urbain et financé par la Banque mondiale. L'objectif de développement du PDVIR est d'améliorer la gestion urbaine et l'accès à infrastructures dans les zones urbaines sélectionnées en particulier pour les quartiers sous-équipés et accroître la résilience aux aléas naturels. Le programme 145, projet du Minjec qui vise la promotion de l'insertion socio-économique des jeunes à travers leur formation et leur insertion en emploi ou en auto-emploi, l'amélioration de l'employabilité des jeunes, etc. Eu égard à tout ce qui précède, être jeune au Cameroun, c'est-à-dire représenter les trois quarts de la population nationale, c'est à la fois un privilège et un prestige. Si et seulement si, jeunesse savait.
Dimanche midi, la balade dominicale.
La page TIC surf ce dimanche dans l'univers très controversé des médias de l'influence. De TikTok à YouTube, d'Instagram à Facebook, les influenceurs attirent les followers autant qu'ils inondent la toile de leur contenu diversement apprécié. Ce segment de l'activité numérique a fait l'objet de tout un débat scientifique à l'université de Yaoundé 2. C'est à la suite de la publication par 32 auteurs d'un ouvrage collectif sur les enjeux socio-économiques de l'influence dans un contexte où les autorités appellent à plus de rigueur dans la taxation de cette activité. La loi de finances impose désormais un prélèvement de 5% sur les revenus des créateurs de contenu. Les influenceurs influencent-ils vraiment nos habitudes de consommation? Dimanche midi vous plonge au cœur de ce métier pour en comprendre les codes. Le grand reportage du dimanche, Gilles-Claude Mbong et Tundi.
Ils sont partout, mais nulle part à la fois. Ils façonnent les tendances, influencent les esprits et dictent les envies. Bienvenue dans le métier des influenceurs camerounais. L'influenceuse croqueuse de diamants compte plus de 100 000 abonnés sur sa page Facebook. Elle partage son quotidien entre shooting, placement de produits et vidéos sponsorisées. Mais derrière cette image parfaite, une réalité bien complexe. Serge Dadi Kasna est chercheur en gouvernance numérique.
On a donc ces gens-là qui font des vidéos, qui font des projections, qui ne sont pas toujours d'ordre éthique et même moral. Un leader est un influenceur positif. Ce serait cette personnalité publique qui, certes, est admirée par la foule, mais qui se positionne également comme un modèle.
L'influence, c'est une bataille de visibilité, un combat contre les algorithmes. Professeur Jean-Emmanuel Pondy et professeur Bertrand Chancho, universitaire.
Les gens ne vont pas les écouter s'ils n'ont rien à dire. Il y a des influenceurs qui sont des influenceurs professionnels, c'est-à-dire qui délivrent la marchandise qu'on attend qu'ils délivrent. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Vous avez des influenceurs qui sont des amuseurs publics, des gens qui n'ont pas intention de faire avancer la société dans le sens où vous vous entendez.
Certains voient en cela un fantasme ou une illusion. Et je crois que c'est dû au fait que ce métier peut sembler superficiel et centré sur l'apparence ou la promotion de produits. D'autres, par contre, trouvent que les influenceurs constituent un véritable métier du digital. Ils peuvent faire reposer le métier sur la création de communautés autour de valeurs, de contenus originaux, et pas seulement de la publicité déguisée, mais un véritable engagement avec un public qui cherche des recommandations authentiques.
Le Cameroun n'a aucun texte définissant l'influence comme un métier. Pourtant, les créateurs de contenus génèrent des revenus. Mais qui sont-ils vraiment ? Professeur Bertrand Chancho, universitaire.
Tout dépend de l'influenceur en question. Moi, je crois que s'ils sont transparents, honnêtes et respectent une éthique et une déontologie, alors ils peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée. Qu'il s'agisse de conseils mode, de culture, de bien-être ou d'éducation.
Dans sa récente étude sur le marché des influenceurs au Cameroun, le cabinet Média Intelligence dévoile les personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux. 11 catégories sont en compétition. Les données publiées indiquent que les influenceurs les plus suivis relèvent de la catégorie de la musique. C'est un art qui récolte 44,4% du taux d'audience devant le sport qui enregistre 33,3% et la catégorie business lifestyle 22% du taux d'audience. Des people dont les contenus sont diversement appréciés par Marcel et Joseph, deux jeunes de la ville de Yaoundé.
Parmi ceux que je suis, je peux citer par exemple Bob Dylan et sa jeune fiancée MK Michel. Ils produisent des contenus chaque jour de ce qu'ils vivent.
Ces jeunes-là, nombreux parmi eux, font, n'est-ce pas, la promotion de la vie luxueuse, la promotion du sexe gratuit, la promotion du proxénétisme, du banditisme et autres. Parfois la promotion même des jeux de hasard. Nous montrent la vie facile. Beaucoup voient que c'est là sans travailler.
Difficile de mettre une étiquette sur cette profession insaisissable. Pourtant, l'État veut taxer ce métier. Depuis janvier 2024, 5% des revenus issus des contenus en ligne doivent être prélevés. Mais comment évaluer ces revenus? Les créateurs de contenu, Bachirou Adib et Ousmane Abou.
L'idée en elle-même de soumettre les influenceurs camerounais aux impôts n'est pas mauvaise. Mais le problème va se poser au niveau du contrôle.
Ce n'est pas encadré, ce n'est pas structuré. Vous voulez récupérer 5% sur ce dont on n'est même pas sûr de produire, ça devient assez compliqué.
Face à ce phénomène mal compris, une équipe d'universitaires a publié un ouvrage. La dédicace s'est faite à l'université de Yaoundé 2. L'ouvrage s'intitule « Influenceur ou influenceuse, une position socio-numérique en débat ». Le docteur Fatih Mandou et le docteur Léopold Ngodi font partie des quatre co-auteurs de cet ouvrage.
Le nombre de vues et les sommes qui sont monétisées à travers les réseaux sociaux, il y a quand même lieu que l'État puisse aussi en bénéficier et mettre cette influence au profit du développement local.
Comment est-ce que l'État peut se mobiliser pour suivre cette imposition? C'est le temps, puisque ces acteurs exercent un métier qui n'est pas encore très bien codifié chez nous. Ces producteurs de contenu résident aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Comment donc l'État peut faire pour suivre ceux qui ne sont pas sur son territoire?
Artistes, entrepreneurs, illusionnistes numériques, un mirage pour certains, un empire pour d'autres, mais surtout un phénomène que personne ne peut plus ignorer.
Les jeunes comme acteurs clés dans la stabilisation des zones en crise, c'est le cas de la région de l'extrême nord confrontée à la crise sécuritaire depuis 2013. Ici comme ailleurs, le gouvernement de la République et ses partenaires s'attellent à les accompagner dans des projets dont la mise en œuvre s'effectue actuellement dans les départements du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Saba et du Logoni-Chari. Objectif visé, détourner ces jeunes des offres du groupe terroriste Boko Haram et leur permettre de s'impliquer activement dans les initiatives de paix. Il était une fois un état tampon de la jeunesse camerounaise destiné à faire barrage à la vague terroriste. Reportage Adamou Moussa, CRTV, Extrême Nord.
Dans l'immense œuvre de stabilisation de l'Extrême Nord, aucune initiative n'est de trop. Le gouvernement qui a activé tous les leviers pour reconstruire la région et relancer les activités socio-économiques met un accent sur l'éducation des jeunes situés en zone de crise. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé à Maroua la caravane d'éducation populaire. Et dans le département du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Saba et du Logoni-Chari est aussi mis en œuvre depuis quelques années le projet dénommé Les jeunes à la tête des efforts de stabilisation du bassin du lac Tchad. Daniel Foyep, responsable du projet.
Comme son titre le dit, c'est un projet de jeunes qui a formé ou renforcé les capacités des jeunes dans divers domaines et qui a travaillé à faire de ces jeunes-là des acteurs du changement, des acteurs de la paix et de la cohésion sociale pour leur communauté. Lorsque nous avons commencé ce projet, nous avons trouvé des jeunes qui étaient assez effrayés, qui ne pouvaient pas approcher les autorités. Mais avec le temps, nous pouvons dire que le challenge est gagné parce que aujourd'hui, les jeunes sont engagés, ils sont plus dynamisés que jamais. Et nous avons travaillé également avec les leaders traditionnels, les leaders communautaires, les autorités administratives pour renforcer le climat de confiance, le climat de collaboration entre les jeunes. Et cela est effectif aujourd'hui.
Sur le terrain, l'impact se fait visible.
Arsa Ngatsine Narcisse, bénéficiaire du projet de Youth Leading Stabilization Effort in the Tchad Basin. Nous avons appris comment collecter les données, comment analyser les données, comment présenter un plaidoyer concernant les problèmes dans notre communauté.
D'autres bénéficiaires ont vu leur autonomisation être renforcée et le risque d'être appâté par les groupes terroristes réduit.
Dokuma Elvire Laetitia, leader jeune de l'association des jeunes pour le développement de Mokolo. Ce projet m'a également vraiment aidé à mettre sur pied certaines petites activités telles que les commerces. J'ai mis en place un commerce de vêtements, mais également à côté, j'avais également mon commerce de cacahuètes que je vends.
Pour soutenir l'accès des jeunes aux opportunités génératrices de revenus dans le secteur agricole, ils ont aussi, dans cette éducation populaire, bénéficier de l'accompagnement pour un rendement consistant et qui les met à l'abri du besoin, un facteur qu'exploitent régulièrement les terroristes pour les enrôler.
Waigai de la communauté de Jingle Montagne nous ont appris à faire le compost. La première fois quand j'ai cultivé le maïs, j'ai eu 3 sacs. Après avoir mis le compost que nous avons appris, j'ai récolté jusqu'à 8 sacs de maïs. J'arrive à survivre avec ma famille.
Pour faire asseoir la paix dans l'extrême nord, et amener les jeunes à s'impliquer à travers une éducation populaire, les camps qui réunissent les jeunes issus de ces zones en proie à l'insécurité sont aussi régulièrement organisés pour prêcher les bonnes valeurs. Marthe Wandou, coordonnatrice de l'ONG Action locale pour un développement participatif et autogéré, Aldepa.
Créer une émulation, partager leurs bonnes pratiques en matière de participation citoyenne, promotion de paix et vivre ensemble. Il s'agit aussi de les outiller davantage par rapport à la promotion de la stabilité au sein des communautés.
L'éducation populaire s'accompagne aussi dans l'extrême nord d'une série d'interventions sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Paul Mamchaï, coordonnateur du projet de stabilisation et de réconciliation de la région du lac Tchad.
Catholic Relief Service et Caritas du diocèse de Maroua-Moukolo ont mobilisé des ressources pour pouvoir aider les communautés, surtout celles déplacées, à pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures sociales et économiques améliorées, mais aussi de refaire leurs activités économiques.
Ces multiples initiatives menées sous la coordination des autorités administratives sont surtout assorties des plans pour assurer leur pérennisation. Maroua, Adamu Moussa, CRTV.
Invitation à la table de la souveraineté alimentaire, la filière huile de palme. Cette filière génère plus de 60 000 emplois directs. Près de 1 milliards de francs CFA ont déjà été investis dans le but de booster la croissance de ce secteur. Si entre les années 1970 et 1980, le Cameroun était au sommet des plus grands producteurs du continent africain, il est nécessaire de souligner aujourd'hui que la filière huile de palme au Cameroun connaît de nombreuses difficultés. Avec un déficit de plus de 200 000 tonnes en 2024, les acteurs du secteur ne sont pas très optimistes quant à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement qui envisage 800 000 tonnes de production. L'accès aux terres cultivables, des subventions conséquentes pour l'achat des semences, un meilleur accompagnement des planteurs ruraux sont autant d'éléments pour mieux alimenter la filière et augmenter le volume de production. Des propositions contenues dans ce reportage de Séraphin Djikam.
Il y a plusieurs années, le Cameroun figurait au premier rang des plus grands producteurs d'huile de palme brute en Afrique. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, au point où, aujourd'hui, l'offre ne répond plus à la demande nationale. Jackie Kemle, président de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, et Cléry Tchala, acteur du secteur.
La place qu'occupe le Cameroun sur la production du palmier à huile aujourd'hui, si on remonte dans les années 80, c'est ici au Cameroun que les Malaisiens sont venus apprendre la culture du palmier à huile. Mais aujourd'hui, on sait le palmier à huile nourrit la Malaisie, tandis que au Cameroun, nous partons de la croissance à la décroissance.
Les industries de la deuxième transformation sont montées en capacité de transformation. Pendant que au niveau du champ, le plantier n'a pas suivi. Et c'est ça qui crée donc ce décalage entre l'offre de cette matière première qui est en même temps un produit fini et évidemment la demande qui est faite par les industriels de la deuxième transformation. On est face à une demande de 2 400 000 tonnes par an pour une production locale qui atteint à peine 500 000 tonnes.
200 000 tonnes de déficit en 2024. La filière huile de palme connaît des difficultés relevées par les producteurs eux-mêmes.
On a permis la mise en place de beaucoup d'industries de la deuxième transformation à travers, effectivement, la loi de 2013 qui incite à l'investissement, alors que en réalité, on devait mettre l'accent sur l'amont, c'est-à-dire sur la production. Pourquoi pouvez-vous relever de façon inacceptable les capacités à ces industries de la deuxième transformation quand vous ne vous êtes pas assuré qu'il y aura la matière première pour tous? Et c'est là où se trouve la difficulté.
Avec 1 milliard de francs CFA investis, de nombreuses raisons liées à la modernisation de la filière huile de palme sont avancées afin de mieux comprendre le déficit actuel. Cléry Tchala.
Aucun pays au monde ne s'est développé sans l'autosuffisance alimentaire. Et nous le savons, chaque jour nous utilisons quelque chose, du moins une dérivée du palmier à huile. Nous avions l'huile végétale, nous avions du savon pour essayer de combler et de rattraper le retard qui est aujourd'hui. Que les Camerounais sortent de cette agriculture archaïque où ils aiment utiliser ce jargon, je peux lancer sa pousse. Mon grand-père m'a laissé avec cette culture. Il faut comprendre que l'agriculture moderne demande une certaine maîtrise de l'itinéraire technique pour avoir des productions escomptées et de la densité au niveau de l'hectare.
Pour structurer et développer la filière huile de palme, le Cameroun doit impérativement mettre sur pied un certain nombre d'infrastructures. Jackie Kemle.
Le Cameroun a la chance d'avoir 5 zones agroécologiques. Ça veut dire que les zones où le palmier pousse sont nombreuses. Et pour que cela soit possible, il faut que l'État rende les terres disponibles. Et je me réjouis que le président de la République ait mis le doigt dans la plaie en parlant de cette question foncière, de l'insécurité juridique où se trouvent les investisseurs. Quand les terres seront disponibles, il faudra qu'on ait la semence de qualité. Il faut un palmier qui a un rendement conséquent. Et sur ce plan, l'État a commencé à donner les plants pré-germés aux planteurs villageois, ce qui est quelque chose de très important. Mais à côté de ça également, il faut engraisser le palmier. Ça coûte cher. Vous avez des pays où on fait 24 000 tonnes à l'hectare de noix, alors qu'au Cameroun, on fait à peine 4 000 tonnes à l'hectare.
Dans cet encadrement des producteurs, il y a des éléments clés à prendre en compte.
Commencer à sensibiliser les populations en ce qui concerne la culture du palmier à huile, présenter les dérivés et ouvrir tout un champ d'action pour permettre à ces derniers de s'intéresser davantage à cette culture.
L'huile de palme, un domaine où la transformation est essentielle afin d'accroître les gains et employer encore plus de personnes.
Parce que cette filière est exceptionnelle en termes de production de revenus et en termes de production d'emplois. Dans cette filière, qui a investi plus de 1 000 milliards à ce jour, vous avez plus de 60 000 personnes qui travaillent en emploi direct. Donc, c'est quelque chose qu'il faut consolider.
Les données actuelles sont loin des projections de la stratégie nationale de développement. Selon le document « Boussole économique du gouvernement », le pays envisage de produire, d'ici 2030, 800 000 tonnes d'huile de palme.
Mais
la production actuelle est d'à peine 500 000 tonnes.
Dimanche midi, sport.
La 59e édition de la Fête de la Jeunesse rime également avec la célébration des meilleurs espoirs camerounais en matière de sport, des jeunes sportifs qui brillent et font la différence par le talent et la persévérance au travail. Karine Atesambang Fomo, arbitre assistant de football de niveau FIFA, Yves-Thierry Missi, encore élève au collège Vogt il y a 2 ans et drafté dès le premier tour à la NBA en 2024, Ilan Batix, l'avenir du tennis de table africain, sont autant de figures émergentes du sport, des motifs de fierté nationale et internationale. Évocation de Samuel Billon dans Dimanche Midi Sport. Bonjour et bon dimanche Samuel.
Bonjour et bon dimanche Florence. À travers ses métiers connexes et sa professionnalisation tous azimuts, le sport a dépassé le simple cadre de loisirs pour se positionner comme un moteur de développement, un facteur d'insertion et d'intégration sociale, source d'engagement et d'épanouissement personnel. Les figures émergentes, modèles de réussite parmi les jeunes sportifs camerounais, se distinguent dans plusieurs disciplines, le football et l'arbitrage en l'occurrence. Professeur certifié d'éducation physique et sportive, diplômé de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Karine Fomo Atesambang compte parmi les profils les plus illustres en Afrique et dans le monde, une tête bien faite. Master 1 en gestion de l'université de Yaoundé 2, cet ancien élève du collège Notre-Dame de Tchang, devenu arbitre FIFA, connaît une ascension honorable avec déjà un nombre impressionnant de compétitions d'envergure dans son riche palmarès. Cannes senior masculine au Cameroun et en Côte d'Ivoire, Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Colombie ou encore la Women's Champions League au Maroc en 2024. Un modèle en somme. Robert Batty 2, président de l'Association des arbitres de football de la région du centre.
Elle a déjà parcouru le monde entier. Elle a dirigé deux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a participé à beaucoup de compétitions internationales organisées par la Fédération internationale de football association, la FIFA. En qualité d'arbitre assistant, Madame Atezabon Fomokarine se distingue en Afrique de manière générale. Elle est même attendue pour le CHAN 2025 qui va démarrer très bientôt. Elle a encore beaucoup devant elle à démontrer et nous pouvons compter sur elle, à nous de continuer à soutenir parce que jusqu'ici, elle ne nous déçoit pas. Je croise les doigts que lors de la prochaine Coupe du Monde, le football féminin sera représenté. Pourquoi pas la Coupe du Monde masculine en qualité d'habit assistante, c'est Madame Karine Fomon qui tient la palme d'or. Et c'est tout bénef pour le Cameroun. D'autres vont certainement suivre cette carrière. Et je crois d'ailleurs que c'est son exemple que beaucoup d'arbitres assistants féminins s'inspirent pour s'intéresser à l'arbitrage féminin au Cameroun.
Des parcours inspirants animent également le basketball camerounais. Cynthia Mayala, puis produit de l'Académie Fusée, révélation de 2023, attendue à l'Afrobasket du 25 juillet au 3 août prochain à Abidjan, Côte d'Ivoire. Yves Tchala. Espère basket.
Cynthia Amayaba, un pur produit de la formation camerounaise. Elle a commencé dans une académie réputée dans la formation à la base et surtout de jeunes filles. C'est l'académie Fusée sous la férule des coachs de formation Didier Basangena Baleba. Cynthia Williams Amayaba débute donc à l'académie Fusée où elle se fait remarquer déjà très tôt dans les petites catégories au sein de la Ligue régionale du centre où elle est constamment surclassée. Elle va rejoindre l'équipe d'Onyx où elle continue sa très grande progression. Puis elle va passer spécialement un cap en venant jouer pour Université de Douala sous le coach Ngouk Manan. Là, elle va s'internationaliser, on va le dire, puisque avec Université de Douala, elle va jouer la Coupe d'Afrique des clubs et ça va être une véritable révélation à ce niveau. Elle reviendra de cette Coupe d'Afrique 2023 comme la meilleure joueuse camerounaise de la compétition, pleine d'espoir. L'année suivante, elle sera sollicitée à nouveau par les forces armées et police pour aller à nouveau dans cette Coupe d'Afrique des clubs, appelée même en équipe nationale senior. Cynthia Mayaba fait maintenant partie des valeurs sûr du basket sera certainement dans le roster de présélection tout au moins en attendant pour l'Afro-basket féminin. Elle a participé aux éliminatoires de cet Afro-basket de la zone 4 du côté de Kinshasa.
Encore élève au collège Vought il y a 2 ans, Yves-Thierry Missi, drafté en première intention à la 21e position à la NBA. Uri Chomche, drafté à la NBA chez les Raptors de Pascal Siakam. All-Star NBA.
Ulrich Chomche, formé de l'Académie de Bafang à l'ouest du Cameroun, a rejoint la NBA Academy. Il a passé toutes les étapes et les programmes de la NBA du Cameroun avant d'être drafté donc directement aux États-Unis à 18 ans seulement du côté des Raptors de Toronto où il évolue en Ligue de développement. Il devrait y faire 2 ans, 3 ans avant de rejoindre définitivement la NBA. Et suivre le parcours glorieux d'un aîné, Pascal Siakam, qui est passé par la Ligue de développement et qui aujourd'hui est All-Star. Yves-Thierry Missi, qui est passé par l'Académie La Pépinière de Yaoundé pour les championnats des petites catégories. Ensuite, le Collège Vought, puis il a rallié les États-Unis où il a fait une seule année de lycée, une seule année d'université avant de rejoindre la NBA. 2 ans à peine aux États-Unis et le voilà dans la plus puissante ligue. Aujourd'hui, il est dans la discussion pour être parmi les meilleurs débutants en NBA. D'ailleurs, il a été sélectionné pour le Rising Challenge parmi les 10 meilleurs débutants. Une véritable pépite aussi, Yves-Thierry Missi.
Ilan Baptiste fait parler son talent en tennis de table avec un impressionnant 177e rang sur 1108 joueurs au dernier classement mondial du 7 janvier 2025. Emmanuel Essémé, le recordman national du 100 mètres, Marie-Antoinette Dassi au para-taekwondo ou encore Arlette Maoué-Fokwa au lancer de poids déficient physique présent aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Autant de figures émergentes, des profils non exhaustifs, voire des success stories qui font honneur au sport camerounais au plan national et international. Sur les traces des seniors Pascal Siakam, Joël Embiid, Samuel Eto'o, Francis Ngannou au MMA, Sarah Hanfounana, Junior Périclès Ngadja, tête couronnée en haltérophilie. Une jeunesse modèle qui bénéficie de la plus grande attention des pouvoirs publics à travers divers projets et programmes en matière d'investissement, d'équipement ou de formation, autant de leviers gages du développement de ce secteur sport et éducation physique, vecteur de bien-être et de progrès social.
Midi, édition du 9 février 2025, entre en gare. C'était une présentation de Florence Mico. Mise en onde, Daniel Mamia. Radio assistée par ordinateur, Thérèse Mbia. Post-production, Oscar Raffan. Réalisation, Rose Coco. Coordination, George Kelon. Supervision, Madeleine Sopikoto, directeur central du Pôle Radio. Supervision générale, Charles Ndongo, directeur général de la CRT. Vous pouvez réécouter cette édition cette nuit lorsqu'il sera minuit 15 minutes sur Internet à l'adresse www.crtv.cm. Mesdames, Messieurs, bon dimanche, à bientôt sur cette antenne. Et par anticipation, bonne fête de la jeunesse.